chacun, je garde mon micro. C'est l'hygiène qui fait ça. Bonjour. Jean-Marie l'a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On était impies, tous, mais Jésus nous a sauvés. Il est mort pour nous, il est ressuscité, et du coup, il nous ouvre une espérance nouvelle, nous aussi. Nous avons ressuscité avec lui, grâce à lui. Mais qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'on a ce salut-là, dans la Bible, eh bien, il faut l'annoncer. Une fois qu'on a ce salut, il faut témoigner de notre espérance. C'est ce que les apôtres vont faire dans les Actes des apôtres. Et c'est le passage que nous allons lire aujourd'hui. Et on va se poser une question finalement assez simple. Comment le Saint-Esprit agit-il? Comment le Saint-Esprit agit-il? On a parlé du Père qui n'était pas content. On a parlé du Fils qui nous réconcilie avec le Père. Donc maintenant, nous allons parler du Saint-Esprit qui nous guide. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un problème. On a un problème. Ok, j'ai perdu le truc. Pourquoi est-ce que j'ai perdu le truc?
Ça y est.
C'est bon?
Ouais, ça va. Ça revient.
Qu'est-ce qui se passe? Oui. On va voir si en température vous faites un signe. On pourrait croire finalement que l'Esprit, le Saint-Esprit, prend le contrôle des chrétiens. C'est un peu comme si voilà, Dieu nous déléguait et nous donnait finalement des super pouvoirs, comme par exemple réagir parfaitement à chaque situation, tout connaître, ou bien faire de fréquents miracles. Pourtant, on voit dans le livre des Actes que la réalité est bien différente. Et avant de lire notre passage, peut-être qu'il faut rappeler ce qui se passe avant ce chapitre 16 des Actes. Il y a les Actes qui commencent par cet envoi de Jésus pour les apôtres. Et voici ce que l'on dit Jésus, c'est l'ordre de mission, c'est la structure finalement des Actes des apôtres. Jésus dit aux apôtres, vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission des apôtres, c'est apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et on va voir que dans les Actes des apôtres, les choses vont se dérouler ainsi. Mais quand on lit les Actes, on sous-estime souvent, trop souvent, le choc des changements opérés parmi les chrétiens. Le Saint-Esprit a fait des choses très surprenantes, même pour les apôtres, qui étaient vraiment en communion avec Dieu, pourrait-on penser, spécialement en communion avec Dieu. Et voici les changements qui ont été opérés avant notre passage. Énormément de conversions à gérer. C'est pas un petit peu de conversion, c'est quand même beaucoup de personnes baptisées d'un seul coup qu'il a fallu gérer. Mais non seulement il y a beaucoup de conversions, il y a en plus une répression extrêmement violente de la part des Juifs, qui étaient normalement les premières cibles de l'Évangile, qui auraient dû accepter en masse le Messie Jésus. Mais c'est pas forcément ce qui s'est passé. Pierre et Jean ont été jetés en prison, Étienne a été lapidé, Jacques, le frère de Jean, a été décapité. On ne pouvait pas forcément s'y attendre au départ à une telle persécution. Ensuite, il y a eu aussi des problèmes internes. Ananias et Saphira, qui font n'importe quoi, qui pêchent contre le Saint-Esprit, et qui sont frappés à l'intérieur de l'Église. Des veuves d'origine païenne qui ne sont pas contentes parce qu'elles estiment qu'elles sont lésées par rapport aux veuves juives. Donc des problèmes internes en plus des problèmes externes. Ensuite, le Saint-Esprit qui vient chez les Samaritains, chez les faux frères, des gens qui étaient méprisés, et aussi chez les païens. Et même si Jésus finalement l'avait prévu, même si Jésus avait donné cet ordre, les disciples, on voit, sont un peu déconcertés, ont du mal à savoir quoi faire face à cela. Et enfin, eh bien, on a l'ennemi de l'Évangile, qui s'appelle Saul, devient le plus grand propagateur de cet Évangile, sous le nom de Paul. Et là encore, il a fallu gérer, il a fallu savoir quoi faire avec cet ennemi dont tout le monde avait peur, qui d'un seul coup devient quelqu'un qui vraiment raconte l'évangile pour nous. Dans tout cela, il a fallu chercher à comprendre, réagir de la meilleure manière, écouter et faire confiance au Seigneur qui agit donc de manière si déconcertante. Et donc maintenant, on va lire un passage qui raconte le début du second voyage missionnaire de Paul, qui arrive après un premier voyage missionnaire, où avec son mentor Barnabas, il a évangélisé quelques villes de Galatie. La Galatie, c'est le sud de la Turquie. Mais la question qui se pose, après la conversion d'autant de païens en Galatie, c'est faut-il d'abord qu'ils deviennent juifs avant de devenir chrétiens? Faut-il les circoncire, eux qui sont païens, c'est-à-dire qu'ils finalement deviennent juifs, avant qu'ils deviennent chrétiens? C'est une grosse réunion à Jérusalem qui va trancher cette question. Et la réponse à cette question, c'est non, les païens n'ont pas à se faire circoncire pour devenir chrétiens. Voilà, je vous ai fait les 15 premiers chapitres d'Actes en 5 minutes. Maintenant, il va falloir lire ce chapitre 16. Et on va bien sûr le saucissonner, parce que l'histoire va le découper en sections pour mieux suivre. Donc, on va lire pour l'instant les 5 premiers versets du chapitre 16. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. Il l'emmena donc et le fit circoncire par la garde des juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec. Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'église de Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Jusqu'ici, cette petite section. Et quand on la lit, on va dans ce moment-là, on continue son voyage. Sans problème. Bon, apparemment, il y a Timothée qui le rejoint. C'est cool, voilà, on fait la connaissance de Timothée, c'est très bien. Mais en fait, quand on dit bien, Paul, il a fallu qu'il fasse un choix. Paul part pour revoir les toutes jeunes églises de son premier voyage missionnaire. Et il recrute donc ce nouveau collaborateur, probablement aussi jeune converti que son église, qui s'appelle Timothée. Et là, truc inattendu, alors que dans le chapitre précédent, il se bat pour que les non-juifs gardent leur prépuce, il fait circoncire Timothée. Truc complètement bizarre. Et vraiment avant, on voit qu'il y a une dispute assez violente entre Paul et Barnabas et des chrétiens d'origine juive. Il faut circoncire les nouveaux convertis. Et Paul et Barnabas ne sont pas contents. Et on voit qu'ils font plus qu'un. Le concile de Jérusalem donne raison à Paul. Et une fois le concile fini, qu'est-ce qu'il fait? Il fait circoncire Timothée. Très bizarre. Pourquoi? Eh bien, tout le monde sait que le père de Timothée est grec. Et cela le décrédibiliserait auprès d'un des publics cibles de Paul et Timothée, c'est-à-dire les Juifs. Et nous le savons, avec le chapitre 15, mais aussi au travers de ses lettres, notamment celle aux Galates, qu'il a envoyée juste avant, Paul est profondément persuadé qu'il n'y a absolument rien à faire pour être sauvé, sinon mettre sa foi en Jésus. Et il est capable d'être très, très tranchant pour le faire. Et on voit, au chapitre, ça se met dans le désordre avec ce petit schéma, mais on voit qu'il commence avec la lettre aux Galates pour dire qu'on est sauvé par la grâce et non par les œuvres, et il y va très fort parce qu'il dit aux Galates, si quelqu'un annonce un autre évangile que celui-ci, C'est-à-dire un évangile où il faut se faire circoncire pour être sauvé. Où la circoncision ou l'obéissance à la loi intervient dans le salut. Si quelqu'un vous annonce un évangile de ce genre, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. C'est dire si Paul avait des arguments de poids, et c'est dire s'il était vraiment opposé à cette théologie-là. Donc dans la lettre aux Galates, il dit ce genre de choses. Après, dans Acte 15, le concile de Jérusalem lui donne raison. Les Juifs n'ont pas à se faire circoncire. Et on voit dans Acte 16, eh bien, que Paul se montre pragmatique. Si la non-circoncision de Timothée est un obstacle à l'annonce de l'Évangile, il faut faire circoncire Timothée. Il calme le jeu, parce que sa priorité, c'est de toucher un maximum de personnes. Il se fait tout à tous pour en sauver quelques-uns. Même ses pires adversaires, même les Juifs. Et donc là, on voit que le Saint-Esprit donne du discernement à Paul, lui donne d'être pragmatique et de s'adapter à sa mission première. C'est une des premières caractéristiques qu'on peut remarquer dans ce chapitre 16. La suite du chapitre 16 avec les versets 6 à 12. Ils traversèrent, c'est-à-dire Paul et Timothée, Timothée après sa circoncision, ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au bord de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Viens en Macédoine et secours-nous! À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à nous prêcher la bonne nouvelle. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons directement un cadre sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la province romaine de Philippe, jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans la ville. Jusqu'ici, cette petite section. Apparemment, Paul veut approfondir l'évangélisation dans l'actuelle Turquie. Il veut finir le travail. Il avait commencé avec finalement la Turquie du Sud, donc la Galatie, et il voudrait aller plus finalement dans cette Galatie et finir son travail. Mais voilà, nous voyons que le Saint-Esprit a d'autres projets pour lui. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, comme dit Luc dans les Actes, l'Esprit de Jésus s'oppose deux fois à son projet. Comment l'Esprit s'y est-il pris pour s'opposer à lui? Est-ce qu'il a mis en place des circonstances défavorables? Paul s'est dit, je vais aller dans telle ville. Et il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait capoter ses projets. Et il s'est dit, apparemment Dieu n'est pas d'accord. Il a fait qu'il interprète un peu les événements. Ou est-ce que, par exemple, il a eu une prophétie? Est-ce que quelqu'un parmi les chrétiens lui a dit, le Seigneur me parle, tout dit, c'est pas une bonne idée d'aller à tel endroit. Est-ce que lui-même a prié? Est-ce qu'il a eu un songe? On ne sait pas trop. En tout cas, quand il s'est agi de dire où aller, c'est une vision efficace, une vision précise qui a été utilisée par Dieu. Paul a eu un songe et des Macédoniens, un Macédonien, lui a dit de venir à son secours. Mais là encore, quand on a un rêve comme ça, il faut l'interpréter. Il faut savoir finalement ce que Dieu veut. Bon, c'est pas trop difficile de le savoir, mais c'est marrant parce que Luc, quand même, dit on a quand même décidé, on a estimé que Dieu nous disait d'aller en Macédoine pour y aller. Donc on y allait. Il a quand même fallu un petit peu interpréter ce rêve. Cette partie encourage à distinguer ce que nous voulons. qui peut être bon, et ce que l'esprit veut, puis obéir. Donc, discerner ce que nous voulons, et qui peut être très bien, de ce que l'esprit veut, puis obéir à l'esprit. Donc, vous voyez, là encore, la marche avec le Saint-Esprit, ce n'est pas de la déresponsabilisation par téléguidage. C'est pas Saint-Esprit qui dit « va ici, dis ça, va ici, et puis nous, juste à obéir ». Ça se passe pas comme ça. C'est pas non plus la stratégie à outrance, c'est-à-dire Paul qui fait son plan de la Galatie en disant « maintenant, on va annoncer l'évangile ici, et puis après là, et puis après là, et puis tout. » Toute la Galatie, la Turquie actuelle, va être évangélisée, et après on va pouvoir aller ailleurs. Même si Paul avait peut-être ça derrière la tête. C'est pas ça. C'est de la stratégie, mais aussi l'écoute du Saint-Esprit. Et les deux ensemble vont faire en sorte que voilà, on va aller dans la bonne direction. Le Saint-Esprit ne nous interdit pas de réfléchir. Et donc vraiment, c'est bien de réfléchir. C'est bien d'avoir une stratégie. Mais le Saint-Esprit veut aussi que nous l'écoutions. C'est-à-dire que des fois, on ne dit rien. Et finalement, on peut dire, il n'y a pas de feu rouge, mais parfois, il met de vrais feux rouges. Et là, en fait, dans le cas de Paul, il met deux feux rouges, et après un feu vert. Panneau indicateur, dans la bonne direction. C'est très intéressant de voir comment le Saint-Esprit agit avec le vôtre. La suite. Verset 13 à 15. Le jour du sabbat. Nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, donc la Paul, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, « Puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Dans le livre des Actes, Paul a toujours la même stratégie. Il va d'abord dans les synagogues pour toucher les brebis perdues d'Israël. Et c'est normal, puisque Jésus est le Messie, avant tout le Messie des Juifs, et donc il va faire une vue pour leur annoncer que Jésus est le Messie. Donc, à chaque fois, Paul va d'abord dans les synagogues. La plupart du temps, le schéma, c'est qu'il va dans les synagogues, il se fait jeter de la synagogue, il va ailleurs, et les païens se convertissent beaucoup plus que les Juifs, et c'est super. Après ça, le schéma du tout. Mais là, apparemment, il n'y a pas de synagogue. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de juifs dans la ville. Et il n'y avait pas de lieu de culte. Et donc, Paul va être obligé de réfléchir. En gros, il a eu un rêve. C'est vrai qu'il arrive, c'est vrai qu'il n'y a pas de synagogue. Il faut faire marcher ses neurones. Donc, Paul va probablement déduire que c'est dans un lieu où l'on peut se purifier qu'il trouvera des juifs, et donc, ça doit être le long d'une rivière. Il cherche la rivière, il voit des gens au bord de la rivière, et super, ça fonctionne, et il annonce l'évangile. Une femme se convertit, et cette femme, qui s'appelle Lydie, finit par les loger. Et ici, nous voyons que quand on se lance, quand on parle, l'esprit peut aussi ouvrir les cœurs. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on est à une sorte de schéma où en fait l'esprit nous donne une mission, donc il faut l'obéir. Mais ensuite, c'est pas parce qu'en fait l'esprit nous dit de faire un truc que notre cerveau est en veille, on est en mode téléguidage, toujours pareil. Il a fallu que Paul fasse preuve d'intelligence, de déduction. Et ensuite, eh bien, il y a eu la conversion d'une personne, et super, il a pu être logé, parce qu'en fait, il est quand même allé en Macédoine, sans avoir aucune idée d'où il allait loger. Il va être logé chez lui. Et donc là encore, on voit que c'est encore une alliance entre ce que l'esprit dit et ce que l'intelligence, ce que la déduction va aussi dire. Et donc son obéissance, son intelligence ont éclairé la mission de Paul. Dernière petite section, je ne vais pas aller jusqu'au bout du chapitre, rassurez-vous. Les versets 16 à 24. Donc c'est la suite. Un jour, que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors, les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. On peut avoir un super retentissement, on peut avoir une communication extrêmement efficace qui pouvait faire connaître notre Église à toute la région. Qui ne rêverait pas d'avoir ça? Une communication merveilleuse, une communication où en fait tout le monde se dit « cette Église, elle a l'air vraiment très intéressante, on y raconte des choses vraiment sympas, j'ai envie d'y aller ». N'avez-vous jamais rêvé de cela? Que les personnes aient très envie de venir au culte ou dans d'autres réunions de l'Église, parce qu'ils n'avaient jamais rêvé de cela. Je pense que si. Finalement, c'est ce que Paul et toute sa troupe ont eu la joie de connaître. Ils ont eu avec eux une prophétesse païenne connue. Elle était très connue puisque on nous dit c'était une esclave qui faisait de la divination, elle était habitée par un esprit diabolique. Et cet esprit diabolique disait des choses vraies et elle procurait de grands gains à ses maîtres. Elle était connue, elle avait une vraie réputation. Et cette dame, avec une vraie réputation, dit à tout le monde d'écouter les évangélistes. Dit à tout le monde d'écouter Paul. Qui n'a jamais rêvé de connaître ça, d'avoir derrière soi le fameux camion de cirque avec ses haut-parleurs? Venez ce soir écouter Paul et Timothée parler le long de la rivière. Vous allez voir, vous serez sauvés. En plusieurs jours, ils ont vu ça derrière. Ils ont des enceintes comme ça derrière. Venez. C'est génial. Communication parfaite. Problème, Paul sait que ce qu'elle dit est exact, que même si tout ce qu'elle dit est exact, ça ne vient pas de l'esprit de Jésus, ça vient de l'esprit du diable. Un peu comme cette histoire où je suis bien libère des personnes de l'esprit démoniaque, et ces personnes le reconnaissent direct. Le diable reconnaît Jésus, il n'y a pas de problème, il sait qui est Jésus. Et là, on voit que le diable sait qui sont ces envoyés de Jésus, qui sont Paul et Timothée. Paul sait que cette âme est habitée par un esprit tyrannique. Le fait qu'il ait laissé faire pendant quelques jours, pendant plusieurs jours, veut-il dire qu'il a hésité avant de chasser cet esprit? Ou est-ce qu'il a mis du temps à discerner qu'il était habité par un esprit diabolique? On ne sait pas, c'est pas dit. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lourd de marcher avec justement ces haut-parleurs par soi. Et il finit donc par la faire taire. Et ça attire un gros ennui à toute cette troupe. Le fait qu'il les fait taire, ça fait qu'en fait, ils sont roués de coups. Et ils sont mis en prison. Et vous imaginez Paul et Timothée au fin fond de leur cachot, qui se sont peut-être demandé, est-ce que c'était finalement une bonne idée de la faire taire cette dame? Elle nous est à Dieu. Et on pouvait prêcher en toute liberté. Là, on l'a fait taire, et maintenant, on est dans un cachot, et on ne peut plus prêcher l'évangile. Ils se sont peut-être demandé, finalement, est-ce que c'était une bonne idée de libérer cette dame? Je vous rappelle que c'est une libération, parce que avoir plusieurs esprits diaboliques à l'intérieur de soi, c'est pas une sinecure. L'annonce de la bonne nouvelle change les choses et a mis Paul en danger. Mais, voilà, il réagit très bien. Et on peut voir dans la suite du chapitre 16 qu'il va se passer quelque chose de super miraculeux à l'intérieur de cette prison. Dieu garde le contrôle. Ça va finir par une condamnation, par plusieurs condamnations. Donc tout ira bien. Mais n'empêche que quand nous sommes dans le feu de l'action, c'est difficile de savoir si les circonstances sont bonnes ou défavorables. C'est difficile. Mais il faut agir selon notre conscience et agir selon ce que l'Esprit nous commande. Quand on laisse le Saint-Esprit gérer les imprévus, ben, il faut certes s'accrocher, mais ça aboutit aussi à des résultats. Donc du coup, face à l'inconnu, comment réagir? Et la première chose qu'il faut dire, la chose principale, c'est que la bonne stratégie, si nous voulons témoigner de notre espérance à titre individuel, en tant qu'Église, eh bien, la bonne stratégie, c'est d'être consacré à notre objectif principal, c'est-à-dire témoigner de notre foi. Ne jamais oublier cet objectif principal. Et les apôtres n'oublient pas l'objectif principal de Jésus. Vous serez des témoins. Être des témoins, c'est notre objectif. Ne jamais oublier ça. Mais ensuite, il faut aussi être judicieux, être malin, être pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Il faut comprendre comment faire les choses de manière intelligente. Comment témoigner d'une manière qui sera de la meilleure manière pour que ce soit reçu par ceux qui vont entendre notre témoignage. Et ensuite, laisser le Saint-Esprit agir. Et nous voyons dans les actes que le Saint-Esprit agit de manière parfois déconcertante. Il faut nous laisser surprendre. Il faut des fois avoir des choses peut-être négatives, se poser des fois la question, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Et laisser le Saint-Esprit agir comme il veut, de la manière qu'il veut. La deuxième chose, c'est que si nous voulons obéir à Jésus, voilà, nous avons un allié de droit, nous avons le Saint-Esprit. Cependant, même si Dieu peut être de notre côté, nous pouvons tout de même avoir des problèmes. Vous avez probablement déjà expérimenté le fait d'avoir le Saint-Esprit avec nous, ne nous épargne pas de faire face à l'adversité. Donc, pas question de tomber dans un sentiment de toute puissance. Et parfois, quand on vient de se convertir, on dit, ouais, les choses sont vraiment faciles avec Jésus. Et des fois, les choses sont vraiment faciles avec Jésus. Et des fois, le Saint-Esprit nous ouvre la voie, et des fois, les choses sont vraiment très, très faciles. Et ça, c'est vraiment génial, quand on connaît cette espèce d'état de grâce. Mais c'est pas forcément tout le temps. C'est même pas forcément la plupart du temps. Et parfois, on a des problèmes. Mais, même si on a des problèmes, c'est le dernier point, Dieu transforme souvent les problèmes en occasion de nous servir. N'ayons pas une idée trop précise de ce qui devrait être ou de ce qui ne devrait pas être. C'est souvent le résultat de nos peurs, de notre amour du contrôle ou de notre amour du confort qui fait ça. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit et n'ayons pas une idée trop crispée de ce que devrait être notre mission. Si nous sommes ouverts à ce que le Saint-Esprit veut, ça peut aboutir vraiment à une vraie persévérance. Et ça nous permettra de ne pas nous endetter sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Parfois, en fait, on se dit, ça, c'est bien pour évangéliser. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Et des fois, en fait, il faut dire, bah non, en fait, on va laisser tomber ça. Et on va essayer de prendre le risque de faire un truc nouveau, de faire un truc qui arrive un peu bizarre, un peu bancal. Mais parfois, en fait, le Saint-Esprit nous pousse à aller dans des zones comme ça, des zones qui ne sont pas nos zones de confort. Et je pense que c'est vraiment bien de prier pour que l'Esprit nous éclaire, savoir ce qu'on veut. Et c'est ce que je vous invite à faire pour terminer ce message. Prions.